L'heure du journal en compagnie de Yannick Catin.
Bonjour, une affaire cocasse ce matin devant le tribunal criminel des montagnes neuchâteloises. Un chaudronnier a été condamné pour avoir arnaqué plusieurs dizaines de personnes. Il commandait des articles en ligne à leur nom avant de s'approprier la marchandise. Les plateformes en ligne disposent d'un énorme pouvoir, autant sur le marché que sur l'opinion. Tel est le constat du rapport de la Commission fédérale des médias. Le tour du monde en moins de 65 jours, Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce matin. Au Sable d'Olonne, le skipper français a pulvérisé le record du parcours de près de 10 jours. Côté météo, le soleil brille sur le canton de Neuchâtel, les températures seront froides. Il fait actuellement 2 degrés à 1000 mètres et sur le littoral et on devrait à nouveau s'approcher du 0 degré dans l'après-midi. Pendant plus d'un an et demi, il a commandé des articles en ligne en utilisant les coordonnées disponibles sur la toile d'autres personnes et ensuite il récupérait la marchandise à son profit. Un montagnon de 28 ans a été condamné à 3 ans de prison dont un an ferme et le reste avec sursis pendant 5 ans par le tribunal criminel des montagnes neuchâteloises. Une vingtaine de députés du Grand Conseil neuchâtelois font partie des quelques 90 plaignants dans cette affaire. Vos précisions, Vincent Costet.
5 tondeuses à cheveux pour le PLR Andreas Hurt, lui qui préfère pourtant aller chez le coiffeur. Un fer à friser pour les Vertes, Clarence Cholet et Chloé Dutoit. Une montre de sport pour le popiste Michael Berly. Ce montagnon sans emploi et sous curatelle a profité de la profusion de données personnelles publiées sur le site du canton de Neuchâtel, véritable caverne d'Ali Baba pour cybercriminels, pour commander parfois plusieurs fois par jour des articles en ligne pour des centaines voire des milliers de francs. Depuis cette affaire, les pages du Grand Conseil sont devenus plus avares en informations sur les élus. Le verdict a été prononcé au terme d'une procédure simplifiée, raison pour laquelle on en sait peu sur cette histoire, mais assez quand même, grâce notamment à la procureure Sarah Weingart, qui a précisé aux journalistes présents, d'ailleurs deux fois plus nombreux que les 3 plaignants qui ont assisté à l'audience, que l'homme avait plusieurs modes opératoires. Parfois, il récupérait les colis à une autre adresse que celle de la victime, mais souvent, semble-t-il, il attendait la livraison de la poste pour subtiliser la marchandise au pied des immeubles des personnes lésées. Raison pour laquelle cet habitant de la Chaux-de-Fonds a ciblé beaucoup de chaudronniers. On note que les députés verts et popistes ont été particulièrement touchés, mais que tous les bords politiques ont été atteints. L'escroc s'est parfois acharné jusqu'à 10 fois sur la même personne. On ignore si le condamné, un solide gaillard qui a fait transpirer les policiers qui l'ont arrêté, voulait ainsi délivrer un message. Lui qui n'avait, et c'est un peu le comble avoué, rien n'a déclaré ce matin en audience au juge qui l'a ensuite condamné.
Vincent, expliquez-nous comment la police a fait pour lui mettre la main dessus.
Mais la procureure nous a loué ce matin le travail conséquent de la nouvelle brigade de la police neuchâteloise qui s'occupe de cybercriminalité. L'homme avait un casier, il avait déjà volé de cette manière, les forces de l'ordre l'ont identifié et comme il ne parvenait plus à s'arrêter lui-même dans ses achats compulsifs en ligne, eh bien c'est la justice qui l'a fait en le jetant en prison le printemps dernier. Ces actes ont eu assez peu de conséquences sur les victimes, quoique la centriste Manon Freitag, dont le nom a été souvent usurpé, nous a raconté avoir perdu pas mal de temps et d'énergie pour convaincre les instituts de recouvrement qu'elle ne faisait pas partie des mauvais payeurs. Là aussi, la police est intervenue pour faciliter les choses. Si les députés que nous avons joints prennent cette affaire parfois avec humour, Andreas Hurt parle de l'arnaqueur comme d'un Arsène Lupin des montagnes, plusieurs victimes se demandent quand même pourquoi les entreprises délivrent en ligne des articles coûtant des centaines de francs sur facture seulement et sans véritable vérification.
Merci Vincent. L'homme a aussi été condamné par le tribunal criminel des montagnes neuchâteloises pour plusieurs cambriolages. Un quart de siècle et puis s'en va. Robert Bouvier quitte le théâtre du Passage à Neuchâtel à la fin du mois. C'est un autre Robert, Robert Sandeau, qui reprendra la barre dès le 1er février. À quelques jours de passer la main, Robert Bouvier se dit heureux d'avoir pu donner vie à ce lieu. Il a tout mis en œuvre durant 25 ans pour répondre aux attentes de tous les publics et pour populariser le théâtre. Et quand on lui demande quelle empreinte il va laisser, il nous cite une phrase de son successeur, Robert Bouvier.
Le futur directeur a eu un mot très gentil, un journaliste qui lui demandait comment me définir, il a dit amour. Je pense que si j'ai pu montrer à mon équipe, parce que ça c'était très important, parce qu'elle donne énormément aux artistes que je recevais, qu'il faut respecter, dont il faut comprendre la mentalité, parfois la sensibilité exacerbée. Oui, si on peut leur donner de l'écoute, de la confiance. Moi, on m'a donné de la confiance beaucoup dans la vie, notamment les gens qui m'ont choisi, même si parfois je me disais, tiens, est-ce que je suis fait pour ça ? Et oui, de tendre la main. Et puis, si on ne montre pas dans le monde de la culture qu'on est tolérant, c'est dommage.
Robert Bouvier quitte la direction du Théâtre du Passage le 31 janvier, mais pas encore les murs de l'institution. Il y jouera encore un spectacle à la mi-février et mettra en scène Nabucco en avril. Les plateformes en ligne ont une énorme influence, autant sur le marché que sur l'opinion. Tel est le constat de la Commission fédérale des médias. Elle présentait un rapport ce matin à Berne, proposant aux autorités d'imaginer une stratégie globale pour encadrer l'hyperprésence des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et des moteurs de recherche. Les plateformes pilotées par les GAFAM ont-elles de fait pris le pouvoir ? Le vice-président de la Commission des médias, François Besançon.
Difficile de répondre de cette façon-là, mais on peut peut-être aborder la réponse sur deux points. D'abord, tout le monde sait aujourd'hui que les plateformes jouent un rôle central dans la formation de l'opinion. C'est notamment une source d'information tout à fait essentielle pour les publics jeunes. Donc dans ce sens-là, c'est un acteur tout à fait majeur. Le deuxième point qui est très important, c'est de constater qu'elles jouent aujourd'hui un rôle, on dit en anglais « gatekeeper », qui était la fonction centrale des médias traditionnels pendant des décennies. Et aujourd'hui, qui joue ce rôle-là ? Ce sont les plateformes dans un environnement à trois acteurs. Le fournisseur de contenu, l'utilisateur de contenu et le marché publicitaire. La taille du pouvoir de marché est absolument sans commune mesure avec le pouvoir de marché des médias traditionnels.
Faut-il réguler les plateformes en ligne ? On retrouve François Besançon.
Réguler n'est pas forcément le bon mot. La régulation est un des aspects. Vous avez un certain nombre de dispositions qui s'appliquent aux médias traditionnels sur la concurrence, qui empêchent le regroupement tout à fait massif à l'échelle d'un pays, de tous les médias dans une seule structure. On ne parle pas de régulation, mais on parle de mise en place de conditions cadres qui doivent pouvoir garantir quoi ? Garantir la même chose que ce qu'on souhaite de la part du paysage des médias traditionnels ? La diversité, la pluralité. Voilà des éléments qui sont tout à fait essentiels. À cela, on ajoute l'indépendance, la transparence.
Des propos recueillis par Serge Jubin, la Commission des médias propose également aux autorités de renforcer les compétences médiatiques et numériques des Suisses afin qu'ils puissent utiliser les plateformes numériques de manière critique et réfléchie. Près d'une semaine après que ces collines se soient embrasées, Los Angeles voit les vents qui attisent les flammes se renforcer, augmentant ainsi le risque de nouveaux départs de feu. Les efforts déployés par des milliers de pompiers, y compris du Mexique voisin, ont néanmoins permis de contenir en partie les deux principaux brasiers au cours des derniers jours. Le bilan s'est alourdi dimanche à 24 décès.
RTN 12h23.
Sport. Les années se suivent et se ressemblent pour Stan Wawrinka à Melbourne. Comme en 2023 et en 2024, le joueur de tennis vaudois n'a pas passé le premier tour de l'Open d'Australie. Il a été éliminé ce matin par l'Italien Lorenzo Sonego, 6-4, 5-7, 7-5, 7-5. Les précisions de Damien Piscopiello.
À Melbourne, Stan Wawrinka a dû rendre les armes après une magnifique bataille de 3h12 face au Transalpin. Le joueur de tennis vaudois pourra toutefois nourrir de gros regrets à l'issue de ce premier tour du tournoi du Grand Chelem australien. Dans le quatrième set, il a galvaudé 3 balles de manche qui lui auraient permis de revenir à 2 partout et de s'offrir un cinquième set de tous les possibles face au Turinois. 11 ans après sa victoire en terre australienne, Stan Wawrinka prend donc la porte dès le premier tour. Il quitte toutefois Melbourne avec plusieurs certitudes.
Reste à savoir si le Vaudois voudra mettre son énergie au service de l'équipe de Suisse. La troupe de Séverin Luthi disputera à la fin du mois une rencontre de Coupe Davis contre l'Espagne à Bienne. 64 jours, 19 heures, 22 minutes et 49 secondes, c'est le nouveau record établi par Charlie Dalin sur le Vendée Globe. Ce matin au Sable d'Olonne, le skipper français a remporté le tour du monde en solitaire à la voile et sans escale. Il a battu de près de 10 jours le précédent record établi par Amaël Lecléac il y a 8 ans. Marcel Neuenschwander.
Usé par la fatigue, bien sûr, et frappé par l'émotion, Charlie Dalin a levé les bras au ciel de longues minutes avant de s'effondrer quelques secondes sur le pont de son voilier au moment de franchir la ligne d'arrivée. Il a réalisé un tour du monde sans faute, prenant définitivement la tête le jour du réveillon, avant une remontée de l'Atlantique à suspense, talonnée par Johan Richomme, qui lui devrait avoir bouclé son épopée en fin d'après-midi. Charlie Dalin a donc pulvérisé le record du parcours de près de 10 jours. Il n'y a pas de secret, si l'homme est considéré comme un ingénieur à l'écoute des technologies les plus pointues, il naviguait sur un 60 pieds à foil, ces ailerons qui font toute la différence, selon Simon Beauvais, constructeur de bateaux à Grandson.
Maintenant, les 60 pieds sont équipés de foil, qui leur permet de voler, ce qui engendre des vitesses beaucoup plus grandes sur ces bateaux-là. Donc là, on a été typiquement un peu deux générations de 60 pieds, entre ceux qui n'étaient pas équipés de foil et ceux qui étaient équipés de foil et qui ont permis d'aller beaucoup plus vite sur cette édition.
En raison de la marée basse, Charlie Dalin doit encore patienter jusqu'à 14h avant de pouvoir emprunter le chenal des Sables d'Olonne et être ovationné par une foule immense qui brave le froid, moins 6 degrés. Plus loin, dans la flotte, la Genevoise Justine Métraux a gagné une place. Elle est désormais 9e à 9000 marins, 16 km de la 8e position, mais tout de même à près de 6000 km de la ligne d'arrivée qu'elle devrait couper, selon les estimations, vendredi ou samedi.
Quant au Genevois Alain Roura, il se positionne au 18e rang. Il lui reste encore plus de 8000 km à parcourir. C'est une affiche de prestige qui attend le HC La Chaux-de-Fonds. Le club des montagnes neuchâteloises accueille Holton ce soir au Mélèze en Suisse Ligue de hockey sur glace. L'objectif est clair pour les abeilles, rester invaincu en 2025 et continuer de se rapprocher de la première place de balle. Face au seul roi, les inquiétudes concernant le poste de gardien de but devraient être levées. Le HCC a utilisé 3 portiers en 4 matchs depuis le début de l'année. En cause, la blessure de Valentino Zaeta et la maladie qui a touché Victor Östlund. Le club chaux-de-fonnier a réagi la semaine passée en engageant Timur Chianov. Le coach des abeilles, Louis Matt, nous explique ce choix.
On a dû réagir par rapport à Zaita qui était blessé. Et puis, c'est quand même une commotion qu'il y a eu. Puis la blessure est sérieuse, il n'y avait pas d'amélioration. Et la deuxième des choses, c'est que notre troisième gardien, Hugo, est à Cervigno, est à Franche-Montagne. Et puis, ben, on ne pouvait pas leur empêcher d'enlever le gardien à tous les matchs. Donc, comme on dit, on déshabillait un pour en habiller un autre. Puis c'était pas le meilleur des scénarios possibles. Donc c'est pour ça qu'on a été chercher Chianov pour avoir un backup fixe jusqu'à la fin de la saison pour pas surcharger Östlund.
Le calme semble donc revenu devant les filets du HCC avant d'aborder la dernière ligne droite de la saison régulière. L'entraîneur des gardiens au Mélèze, Santeri Matikainen, estime que la situation a bien été gérée.
We adapt to the situation and we do the best we can.
On s'adapte à la situation pour faire du mieux qu'on puisse. Nous avons eu pas mal de rotations au sein de nos gardiens, mais ça fait partie du hockey. Pour nous, ce n'est pas vraiment spécial et nous sommes maintenant heureux avec la situation actuelle. Mes choix n'ont pas été trop impactés ces derniers temps. Je me base sur la condition physique de chaque gardien pour savoir lequel doit jouer. Mais au final, Victor est notre numéro 1 et l'équipe le sait. Il est maintenant à 100% et pourra être devant les filets contre Holton.
He's ready to go tomorrow.
Des propos recueillis par Marcel Neuenschwander et traduits par Damien Piscopiello. Victor Östlund sera donc de retour devant les filets du HCC ce soir. Evgeny Chiraïev devrait lui aussi revenir au jeu. Oliver Ackermann, de son côté, est encore trop juste pour rejouer. Il devrait cependant reprendre la compétition cette semaine selon Louis Matt. HCC Holton, c'est un match à suivre en direct sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Damien Piscopiello et de son consultant Steve Pochon. Bon appétit et bon début d'après-midi.